Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable... Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
La presse, deuxième rendez-vous de la semaine. Merci de vous informer à travers cette émission de 90 minutes sur Canal FM. Émission suivie sur la 93.5 FM, mais également sur Internet via les plateformes digitales de la radio, notamment Facebook, YouTube et canalfm.com. Six radios partenaires reprennent Club de la Presse, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Radio Daoul à Bassar, Centrale FM à Sokodé, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Les techniciens de tranche sont Thomas Datevi à la mise en onde et Jérôme Akoucha à la mise en ligne. Quant à moi, j'assure la modération de ce débat. Je me nomme Fousseni Saïbou. Avec moi sur ce plateau, Eric Johnson du journal L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour Fousseni, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. L'occasion pour vous dire... Nos meilleurs voeux de santé, surtout, de bonheur et de prospérité.
D'accord. Isidore Akolor, du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour Fousseni, bonjour confrères, consoeurs ici présentes. Bonjour à toutes et à tous et mes voeux les meilleurs.
Merci. Et puis, Ambroisine Mémédé de l'agence de presse Savoir News. Bonjour Ambroisine.
Bonjour Fousseni, bonjour chers confrères, chers auditeurs, chers abonnés de l'agence Savoie News. Vous qui nous écoutez en ce moment, recevez mes voeux de santé, de divine protection et travaillons ensemble, travaillons, et le Seigneur sera prompt à bénir l'œuvre de nos mains.
Amen. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Sans transition, voici le débat. Nous démarrons ce numéro avec un sujet pas du tout gai. Nous avons appris hier, en fin d'après-midi, la disparition d'un grand homme d'affaires togolais, celui qui s'est fait remarquer dans le monde des affaires à travers ses prestigieux hôtels La Concorde, Accara et à Lomé et par le commerce des métaux de construction. Il s'agit bien de Gado Tchaïso Nassini, un entrepreneur discret natif de la préfecture de l'Abidjan. Alors, Isidore Akolor, le pays perd encore un de ses valeureux fils.
Évidemment, parce que c'est un opérateur économique. Et nos pays peuvent mieux se porter si les investisseurs ou les opérateurs économiques se portaient mieux. Mais paix à son âme, c'est un vieux que j'ai connu. Il a été militaire, ce que je me trompe. Et il a mené sa lutte et aujourd'hui il rend l'âme et on ne peut que le souhaiter, que Dieu l'accorde dans sa miséricordieuse demeure et qu'il repose en paix.
Amen. Alors, on naît, on grandit, on meurt, ainsi va la vie. Mais ce qui importe dans la vie, sur cette terre, pour le peu qu'on lui connaît, le désormais feu Gado a laissé quelque chose pour la postérité. Alors, n'est-ce pas ce qu'il faut dans la vie, ce qu'il faut, réaliser de ce genre de choses dans la vie avant de partir, n'est-ce pas, Eric?
Oui, effectivement, M. Gado, on l'a connu avec son complexe hôtelier La Concorde. Et au-delà ce domaine d'affaires, il est également dans la quincaillerie. Distribue le fer, il distribue également les climatiseurs Royal, si j'ai bonne mémoire. Et puis, tout récemment, il a commencé la bijouterie et un peu d'habillement aussi. Et donc, comme tu l'as dit, c'est vrai, quand on naît, on grandit et on meurt. Mais ce qui est important, c'est ce que l'on a laissé sur cette terre avant de partir. Je pense que M. Gallo, désormais feu Gallo, il a quand même laissé quelque chose qu'on peut toucher du doigt, hein, même après sa disparition. L'essentiel, c'est que cette œuvre humaine-là soit quand même gardée et que ça prospère, que les gens ne gaspillent pas tout ce qu'il a eu à faire, parce que étant un opérateur économique, c'est qu'il a avec lui beaucoup de gens qui travaillent dans ces entreprises, et donc le monde de l'emploi aussi doit véritablement regretter la disparition de cet homme qui grandissait au jour le jour. Vous vous rappelez de son histoire où l'hôtel La Concorde qui s'y a Vegy a été cassé. Entre temps, c'était vraiment un souci parce qu'il fallait faire une route qui passait devant l'hôtel.
Et donc, il faut dire qu'il a construit dans les emprises.
Dans les emprises de la voie publique. Il a été très fair play en acceptant quand même de casser une partie de cet hôtel-là, et qui est devenu un joyau que nous visitons aujourd'hui et où se déroulent beaucoup de conférences, et quand même il accueille également beaucoup de touristes dans cet hôtel. Donc paix à son âme, et disons tout simplement que cette œuvre-là soit quand même préservé.
D'accord. Alors, Ambroisine Mémédé, nous espérons que ses descendants sauront perpétuer ses acquis.
C'est ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, qu'il repose en paix et que ses œuvres puissent continuer et toujours et encore faire parler de lui, et que la relève puisse vraiment prendre soin de ce qu'il a laissé comme œuvre pour que justement, des exemples comme ça puissent encore exister, et pour que ça participe en réalité au développement. Ça participe au développement, tout simplement. Paix à son âme.
Paix à son âme. Oui. Condoléances à sa famille biologique.
Tout à fait.
Poursuivons avec des sujets plus gais. Nous parlons culture tous les mardis. Alors, Ambroisine Mémédé, puisque vous avez le micro, nous allons parler particulièrement d'un article sur Savoir News, de 28e édition de FESPACO, le Togo, pays invité d'honneur. Lit-on sur ce site?
Oui, l'invitation a été envoyée au ministre de la Culture par son homologue burkinabé. Et cette édition, qui va se tenir du 25 février au 4 mars, est placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Voyez, la paix a une grande importance, en tout cas en Afrique. Et donc, le Togo sera à l'honneur. C'est l'occasion pour le Togo de montrer ce qu'il s'est fait dans ce domaine-là. Vous savez que le 7e art togolais se positionne aujourd'hui sur le continent à travers des réalisations, films, séries, documentaires, etc. Et d'ailleurs, le FESPACO 2021, le Togo a décroché le meilleur prix de film d'animation grâce à notre sœur Ingrid Agbo pour son œuvre à Peuple Bito. Donc, c'est une occasion pour le Togo de se hisser encore plus, d'être la vitrine de cette édition-là, d'être valorisé, de mettre la lumière encore sur ses œuvres et son savoir-faire dans le domaine.
D'accord. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi FESPACO?
Alors, c'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'article sur le site de l'agence Savoie-News.
D'accord. Alors, en matière de cinéma, le Togo fait quelques progrès depuis quelques années avec l'émergence de quelques jeunes réalisateurs qui proposent au public des films de bonne facture. Et est-ce que c'est ce qui justifie le choix porté, hein, Eric, sur le Togo comme invité d'honneur de FESPACO 2023?
Eh bien, pour être vraiment sincère, hein, je pense que l'industrie cinématographique au Togo tangue. Il faut le reconnaître parce que, vous savez, il y a un élan qui était pris dans les années 80 avec le Cinéato, qui a été une œuvre de l'État togolais, mais qui, quelques années après, a complètement disparu. Et donc, à partir de ce moment, franchement, il n'y avait plus de production cinématographique au Togo. Aujourd'hui, je crois que avec l'appui de l'État, surtout dans son programme aide à la culture, ça a repris. C'est vrai, il faut le reconnaître, avec de jeunes qui essaient de faire, de proposer quelque chose de bien dans ce domaine-là. Toutefois, je me dis que oui, parce que le Togo a eu à décrocher un prix au dernier FESPACO, et donc c'est ça peut-être qui a suscité cette invitation comme invité d'honneur pour notre pays. Et je crois que c'est une émulation qu'on est en train de donner à tous ceux qui aiment le septième art. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que l'État encourage ces jeunes-là. Vous vous rappelez, et Steve Aff a essayé de produire quelque chose, et c'est ici qu'il a fait des démarches pour chercher des moyens pour pouvoir produire ce qu'il a proposé. Et donc, c'est pour dire que nous manquons de beaucoup de moyens. Certes, ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on continue par travailler dans ce domaine et faire quelque chose de bien sur ce plan-là. Donc, le Togo est invité d'honneur. C'est une très bonne chose. Je crois qu'il faut désormais appuyer ces jeunes-là qui sortent de la tête de l'eau.
D'accord. Merci, Eric. Alors, le théâtre fait partie aussi du cinéma. Et le Togo, quelques décennies auparavant, a connu la gloire dans ce secteur. Vous vous souvenez de certains acteurs surnommés Mbossi, Politikos, Ousmane, Azeko Kovina, et j'en passe. Oui. Certains ne vivent plus dans ce monde. Mais je peux, sans exagérer, dire qu'ils avaient fait du théâtre l'art le plus apprécié dans la sous-région. Alors, Isidore Akolor, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ce recul?
Ah, mais la question se pose. Est-ce que ça fait vivre les acteurs? C'est la grande question qu'il faut se poser. Moi, j'ai connu, moi, j'étais plus culturel à l'époque, et surtout dans le domaine musical. Mais ça ne fait pas vivre les artistes. Et c'est comme ça que beaucoup, vous voyez, c'est des artistes. Les trois arts, vous vous souvenez, Gaglo et des trucs là, bon, mais qui ont fait de très bonnes prestations. Et les Ivoiriens sont venus copier chez nous. Aujourd'hui, ils sont en avance. Ils sont en avance. Donc voilà la situation. Il n'y a aucune promotion culturelle au Togo, ni aucune vision, excusez-moi de le dire, parce que la plupart de ces acteurs meurent pratiquement dans l'anonymat et dans, comment dirais-je, dans la précarité. Dans la précarité. Et je me souviens encore de l'autre là, le conteur, merde, comment j'ai pu oublier son nom.
Sans vie.
Non, pas sans vie. Non, sans vie n'est pas mort. Il vit toujours. L'autre là, il était journaliste. Son nom m'échappe un peu. Mais il a disparu dans l'anonymat. Bon, la fois dernière, quand Gaglo Atina a succombé, il est passé inaperçu. Inaperçu. Donc voilà la situation qui fait que, bon, les quelques jeunes qui s'y prêtent, comme surtout le 7e art, Steven Aff, que je salue de passage, il s'est émargé parce que c'est un battant.
Il n'est pas le seul actuellement. Il y a, j'ai oublié son nom, Mbassa, un jeune Mbassa qui émerge également.
Oui, mais avant les trucs de Kawilassi et autres là, bon, pour Madame Guignedi qui avait présenté là, mais le cinéma ou bien le film qui a encore rayonné, c'était la production de Steven Aff. Moi, est-ce que je ne me trompe? Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon. On a tué l'art au Togo, on a tué le sport au Togo, parce qu'à l'époque où Kaolo brillait, on tamait les pions aux Camerounais, aux Nigériens et autres là. Donc je reste encore nostalgique du passé des années 70-80 et de la gloire. D'être Togolais en matière sportive et comment dirais-je, culturelle. Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'échelle. Il va falloir remonter les choses. À l'époque, je me souviens, quand vous parlez d'Azeko Kovina, c'est plutôt le concert parti que l'autre là essaie de ressusciter. Badamassi, bon, avec quelques petits problèmes, et parce que le doyen qui l'accompagnait, Agbamekanou, lui aussi a disparu.
Il est décédé.
Il aurait pu lui donner la main. Et voilà. Et quand on parlait même de Azeko Kovina, il y a l'autre là. Comment j'ai oublié son nom.
Ils sont nombreux.
Coquevitor, oui, voilà. Et avant Coquevitor, moi j'ai connu Rapista avec Zoro et Vondoli.
Tu oublies beaucoup.
Oh oui, non, parce que c'est du passé. Je me souviens encore de Rapista, Zoro et Vondoli pour les anciens. Donc voilà, on a tué l'art au Togo. Il va falloir qu'on puisse, le ministère puisse ressusciter.
Oui, Eric.
Je pense que fondamentalement, il y a un problème qui se pose. C'est le problème de scène. Avant, tous ces gens-là produisaient et en même temps, il y avait la télévision qui essayait de faire des reportages sur eux et ça permettait quand même, il y avait de l'engouement autour de ces gens. L'autre truc, c'est comme le cinéma, hein, on n'a plus de salle de cinéma aujourd'hui si ce n'est pas Canal Olympia.
C'est ridicule.
Ce qui est évident, nous n'avons plus de salle de cinéma à part ces deux salles aujourd'hui.
Opéra à l'époque, c'est mieux que ce qu'on nous construit.
Il y a le Grand Rex également.
Oui, le Grand Rex ne diffuse plus de films, malheureusement. Et donc, le Grand Rex est devenu une salle de spectacle et de restauration. Et donc, tant qu'il n'y a pas de scène, tant qu'il n'y a pas de salle de cinéma, alors les artistes vont produire où? Les artistes vont faire leur spectacle où? Il y avait, dans le temps,
les centres communautaires.
Le CCF et les centres communautaires.
Les centres communautaires, surtout.
Dans
chaque quartier.
Dans les quartiers.
À tout de rôle,
et aujourd'hui, on remarque que toutes ces scènes-là sont soit fermées ou dédiées à d'autres activités. Et je crois qu'il y a un autre phénomène
c'est que aujourd'hui, avec la technologie et tout ça, nous n'arrivons plus à nous entourer de grandes personnes qui nous racontaient des contes. Alors, tout part de là. C'est-à-dire, l'amour du conte fait que lorsqu'il y a un spectacle, on est tenté d'aller regarder. Mais aujourd'hui, il y a l'IFT quand même qui continue par proposer des spectacles. Mais est-ce que il y a de l'engouement autour de ces spectacles-là? Il y a d'autres centres de spectacles qui ont été créés, mais est-ce que le public est motivé pour aller regarder ces trucs? Ça veut dire que les artistes n'arrivent plus à vivre de leur art. Et donc ça tue un peu l'art. Mais je crois que aujourd'hui, avec la création d'écoles supérieures des arts de spectacle, etc., on peut remonter la pente.
D'accord. Je me suis souvenu du nom de ce dernier, Kounaté Ablodévi. Oui, c'est un grand orateur. Et quand vous parlez de conte, il a une belle voix. Mais celui-là, bon, peu de gens le connaissent.
D'accord. Alors, en Brésil, Mémédé, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que les Togolais s'intéressent au cinéma en salle? Parce qu'avec l'Internet aujourd'hui, on a accès à tout. Les films, tu peux rester dans ta chambre, télécharger un film et puis suivre tranquillement avec ta famille.
Je me suis posé la même question. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, chacun regarde son film, est spectateur de son écran. Et ça fait que se retrouver ensemble dans une salle, on perd cette habitude-là qu'on avait. Habitude qu'on a hérité, dont on a hérité et qu'on a essayé de perpétuer jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, de cette liberté-là de télécharger, même avant la sortie d'une œuvre, d'avoir déjà l'œuvre en version craquée, etc. Et ça fait que nous avons perdu ce côté-là et de vie en communauté autour d'un spectacle, autour d'une présentation scénique. Et je pense que ça va être un peu difficile de remédier à cela, mais nous savons que la culture, nous avons besoin de la culture. La culture, un monde sans culture est assez fade. Ce que nous avons aisément expérimenté pendant la période Covid, n'eût été ces acteurs culturels, on n'aurait pas aisément passé cette période-là. Et c'est ce que essaie de faire certaines structures qui s'installent et qui accordent un espace aux présentations artistiques et tout. Et donc, je pense qu'avec également les efforts du ministère de la culture, je pense que progressivement, on va redonner de la valeur à notre art. On l'a dit tout à l'heure qu'au FESPACO 2021, il y a une de nos consoeurs qui a remporté un prix. C'est le Togo, en réalité, qui a remporté le meilleur prix film d'animation. Et donc, les choses remontent progressivement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on arrivera à hisser.
Surtout avec l'ouverture officielle d'une école des arts.
Oui, l'école supérieure des arts.
De spectacle.
De spectacle, effectivement. Qui accueille sa première promotion d'étudiants dans ce domaine-là. Initiative portée par le Festival international du théâtre des arts plastiques, créé depuis 2018, qui porté par Madame Togbonou, qui fait un grand effort, un effort déjà salué par le ministère de la Culture, effort qui vient renforcer les initiatives, les efforts également du gouvernement dans le domaine des arts. Et vivement, beaucoup de courage à cette dame qui se bat pour la culture.
D'accord. Alors, il y a, succès à cette école.
Un de nos collègues qui s'est rappelé d'un artisan que j'adore personnellement, il s'appelle Kondo.
Kondo, effectivement.
Kondo.
Effectivement. Avec les carrés jeunes.
Avec les carrés jeunes. Il a également, il s'est rappelé de Azeko Kovivina et autres. Je pense que tous ces gens-là aujourd'hui nous manquent parce que il faut qu'on commence par compter tout ça là aux enfants pour que ça prenne. Parce que aujourd'hui, je pense que la jeunesse a d'autres champs à fouetter. Hein. Les jeunes ne sont plus attirés par le spectacle. Vous savez, la dernière fois, je passais juste quelque part et quand j'ai vu qu'il y avait une troupe qui chantait, qui dansait, et j'étais allé garer tout simplement pour regarder un peu le spectacle. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était en fait l'inauguration de l'école supérieure des arts de spectacle. Franchement, je n'avais pas l'information, mais c'est parce que j'ai vu tout ça, je me suis arrêté et j'ai regardé. Donc, il faut quand même que ça prenne quelque part, c'est la jeunesse, il faut qu'on reprenne nous-mêmes le flambeau, parce que la culture, c'est tout ce que nous avons de commun qui nous permet de vivre ensemble.
D'accord, avant de sortir de ce sujet, alors avant le théâtre était promu à l'école depuis le Coupe-Mère, et on se souvient aussi de cette émission des samedis après-midi sur la télévision nationale, où des enfants passionnés de théâtre prestaient avec beaucoup d'éloquence et de talent. Chaque lycée et collège à l'époque également avait sa troupe théâtrale. Ah, ils faisaient des compétitions. Mais aujourd'hui, la jeune génération ne semble pas s'intéresser à tout cela. À tout cela.
Non, parce que c'est la technologie, hein, il faut le connaître. Hein. Aujourd'hui, ça ennuie les jeunes quand vous leur demandez de suivre. Et plutôt, c'est les sketchs qui attirent plus. Bon, on n'a pas su faire la transition vers les sketchs. On est resté dans le théâtre et le théâtre et rural, plutôt de rue et moderne. Et c'est ce que les 3A avaient fait, mais ils n'ont pas su faire la transition. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans la production même cinématographique, c'est tourné plus vers les téléfilms. Hein. Ce n'est plus
les nouvelles.
Seulement les nouvelles. Les téléfilms, c'est différent. C'est différent. Et ce n'est plus les longs métrages, les courts métrages.
Les séries.
Là, d'accord, si vous avez les moyens pour les séries, c'est. Mais c'est plutôt les téléfilms. Où vous voyez, c'est les Sénégalais qui excellent plus dans ce domaine, et suivi des Camerounais, des Nigériens. Pour les Nigériens, ils sont top. Je voulais parler des
les premiers qui ont commencé.
Oui, parce qu'ils ont Nollywood.
Nollywood,
et les Ghanéens, ils sont très en avance sur nous au niveau des téléfilms. Bon, maintenant, c'est le Sénégal, le Burkina, dans une bonne mesure, et le Cameroun, et qui suivaient, y compris même la Côte d'Ivoire, qui est plus dans les sketchs. Ils sont plus forts dans les sketchs. Bon. Et qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui? Les sketchs, on ne nous voit pas. Et quand vous le voyez, c'est tellement fade.
Avec la technologie, tout le monde, avec son téléphone portable, on peut réaliser
quelque
chose dans sa chambre.
Non, peu importe. Même quand vous voyez, regardez les sketchs des Ivoiriens, même les spots. Quand ils posent la voix, quand ils prestent, ce sont des acteurs. Vous sentez ça immédiatement. Mais chez nous, c'est comme si on les poussait à le faire. Et moi, excusez-moi de le dire, parfois je suis un peu dégoûté de voir certaines prestations comme Coligo, c'est de la redondance, il n'y a pas d'innovation. Alors qu'à l'époque, quand nous suivons et les Coco Vitor, même rien que son entrée sur scène, vous rigolez. Par cette démarche, vous rigolez. C'est des acteurs. On n'a pas d'acteurs.
D'accord.
Non, il faut pas jeter.
Pour sortir de ce sujet.
Non, tu comprends ce que j'ai dit.
Faut pas jeter l'eau avec l'enfant.
Il faut sortir.
Faut pas jeter l'eau avec le bébé. Il faut juste dire que aujourd'hui, quand vous regardez tous ces films dont tu parles, c'est la transposition de ce que nous, nous connaissions dans le temps avec le théâtre. On remet ça en scène pour dire qu'on a fait un film. Donc, on change un peu juste les scènes et vous avez un bon film. Par contre, chez nous, ce qui se passe, c'est que, en réalité, les gens ne font pas trop de recherches. On est un peu statique dans tout ce que nous faisons depuis là jusqu'à aujourd'hui. Et comme il a dit, c'est qu'il faut faire cette transition-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez, quand par exemple, nous, Africains, nous regardons les sketchs européens, ça ne nous dit rien. Peut-être même on ne comprend pas, mais eux-mêmes, ils comprennent. Donc, nous aussi, nous avons notre façon de percevoir les choses, de les recevoir. Et à partir de ce moment, il faut que ces artistes-là fassent ces recherches-là pour savoir ce que le public togolais, par exemple, on parle du Togo, ce que le public togolais aime pour les lui proposer.
D'accord. Alors, merci à vous tous. Nous poursuivons le parcours des parutions de ce jour avec la une du journal Actu Express. Dilatoire et trafic d'influence quand Babi Benito Amorin fait la misère à Madame Amelia Aba Olimpio, lit-on dans Actu Express. Alors, Isidore Akolor, de quoi est-il question exactement?
Ah, c'est une affaire entre pratiquement des cousins. Et l'affaire remonte en 2006, quand les héritiers de feu Oscar Olimpio ont décidé de mettre à bail leur immeuble hérité de leurs parents. Il s'est fait que bon, il y avait eu deux prétendants, dont un Togolais qui se trouve être le grand cousin de cette lignée, et à la personne de Baby et Olimpio, et que beaucoup de gens connaissent. Et donc, entre un étranger et un frère ou un cousin, un grand cousin, le choix est vite fait. Donc, c'est depuis là-bas, là, on lui a donné l'autorisation de pouvoir et rebâtir l'immeuble. Donc, il va falloir faire sortir les occupants commerciaux qui étaient dedans. Et il a avancé 20 millions pour pouvoir les dédommager et pour entreprendre rapidement les travaux. Mais il s'est fait que lors de la signature du contrat, Baby Olimpio s'est désisté en faveur de sa femme. Et c'est là où les héritiers de feu et Oscar Olimpio, représentés par Aba Olimpio, se sont retraités, dit que mais on n'a pas discuté avec ta femme. Mais la moindre mesure, c'est de nous avertir. C'est avec toi qu'on a discuté. Bon, et sa femme est propriétaire de la société Hirondelle Sarles, et que c'est au nom de cette société qu'il est venu discuter. Et les gens disent, bon, dans ce cas-là, bon, il faut qu'on puisse rencontrer ta femme pour voir les contours du contrat. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension de 2006 et jusqu'à 2009 où Baby Olimpio était obligé de saisir les biens de Aba. Baby Amorin était obligé de saisir les biens de Aba Olimpio pour pouvoir rentrer dans ses fonds des 20 millions. Donc, c'est sur ce fait, bon, elle a fait beaucoup de tractations pour pouvoir aller trouver les 20 millions et qu'il a redressé, mais qu'il a reversé. Mais, en temps, il y avait eu des arriérés, ou bon, plutôt pas des arriérés, mais des manques à gagner. Parce que pratiquement, durant 3 années, les travaux n'ont jamais été réalisés, alors qu'on a vidé les lieux. Et les manques à gagner étaient à hauteur de plus de 25 millions. Et donc, c'est là où elle s'est dit que, bon, elle ne peut pas se taire là-dessus parce que c'est une bonne volonté qui l'a aidé à verser les 20 millions. Aujourd'hui, cette bonne volonté se trouve en difficulté. Il est grabataire, il est gravement malade et cherchait les moyens pour se soigner. Et donc, en 2012, elle était obligée d'assigner Baby Olimpio et sa femme en justice. Il a gagné en 2016 lors d'un jugement en sa faveur, et Baby Olimpio avait interjeté appel, et l'arrêt a encore confirmé la décision de la première instance. Et on a commencé par mettre la main sur les biens de Baby Olympio et sa femme. Bon, et c'est là où bon, Baby aussi a dit que non, ce n'est pas possible. Et patati patata, il a pouvoir en cassation pour sursoir à l'exécution de cet arrêt. Et c'est là où la dame Olympio dit que bon, elle se trouve dans une position, parce que ceux qui connaissent Baby Olympio, je ne vais pas dévoiler des secrets ici, est impuissant et dit que bon, il fait usage de dilatoire et de trafic d'influence pour retarder l'exécution de la cour. Donc et la cour suprême a donné raison à Olympe et Baby et a cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé les deux par devant et la cour d'appel est recomposée. Et jusque-là, depuis 2021, jusqu'à présent, rien ne se fait. Et ces cris de détresse sont parvenus à notre rédaction. Et on a rencontré et Baby Olympio et Amorin et la dame. Quand ceux qui vont découvrir veulent en savoir plus,
ils n'ont qu'à visiter l'article dans l'apparition de ce jour.
Parce qu'on a équilibré les informations. La version de Baby Amorès s'y trouve, de même que les cris de détresse de Abba Olympio.
D'accord. Alors, As-tu Express
évoque un problème des litiges fonciers.
Est-ce que c'est litige foncier?
Toujours les mêmes problèmes. La justice ne fait que ça désormais. Voilà. Et donc, je dis tout simplement que, comme tu l'as dit, son cousin, c'est la même famille.
C'est la même famille.
Ils peuvent régler ça en famille.
Oui, parce que si ces histoires-là sont versées dans le public, c'est pas bien séant pour eux-mêmes. Hein, leur image, la fraternité qu'ils ont toujours eue entre eux. Je crois qu'il faut que les deux parties arrivent à s'entendre. Si quelqu'un investit et qu'il veut retrouver ses fonds, qu'on l'aide à retrouver ses fonds. Et maintenant, s'il faut retaper un immeuble, parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème de logement qui se pose également dans certaines familles où des gens qui étaient vraiment propriétaires se retrouvent sur le carreau. Ils sont devenus pratiquement des SDF. Et donc, il faut qu'ils arrivent à trouver une solution à cette histoire qui, franchement, désole la population. Parce que quand on dit Olympio, c'est une grande famille. On dit Amorin, c'est une grande famille. Il faut pas que de ces trucs-là arrivent à casser les liens de fraternité qu'il y a.
D'accord. Alors, nous passons à un autre sujet. Sous la médiation du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, la crise diplomatique née entre la Côte d'Ivoire et le Mali, suite à l'arrestation de 49 soldats ivoiriens par Bamako, a été dissipée. L'actualité nationale et internationale reste encore dominée par cette affaire. Le journal, l'audience titre « Libération des 46 militaires ivoiriens, tous unis, Mali et Côte d'Ivoire disent merci au président Faure Gnassingbé ». Le médium titre « Médiation, une couronne de laurier pour Faure Gnassingbé ». La France se félicite de la libération des 46 militaires ivoiriens et salue la médiation togolaise, lit-on sur Savoir News. On lit à la une du journal L'Union, trois héros, une libération, Faure a négocié, Alassane a tempéré, Assimi a accepté, les 49 soldats ivoiriens sont libres. Les coulisses de retour des 46, un récit des forces armées de Côte d'Ivoire. Et puis, Vision d'Afrique qui titre « Libération des 46 soldats ivoiriens par le Mali ». Et si la reconnaissance d'Abidjan passait par l'ouverture des frontières terrestres. Alors, voilà, Eric Johnson, voilà une affaire que beaucoup ne croyaient pas bien se terminer entre les deux pays, mais qui finit par connaître un dénouement heureux après plusieurs remous et grâce à la médiation togolaise.
Oui, il faut dire que, très franchement, les Africains ont encore fait preuve de leur humilité, parce que au-delà de tout ce qui s'est passé, c'est cette humilité-là qui a permis quand même de trouver un dénouement heureux à cette affaire. une affaire rocamboleste au départ parce que, vous savez, les positions étaient tranchées parce que chacun voulait quand même montrer qu'il a quand même une certaine force dissuasive sur l'autre. Et donc, quand cette affaire-là a commencé, tout le monde était perplexe quand le Togo a dit qu'il va quand même trouver un dénouement heureux à cette affaire. Il faut le dire, même au cours des émissions, tout le monde se demandait comment le chef d'État togolais pourrait arriver à aider les deux pays frères à se comprendre et à avoir la libération des 49 militaires ivoiriens. Il ne faut pas oublier que dans cette histoire-là, avec la position de la CDAO, il y a eu beaucoup de croques en jambes. Il y a certains pays qui voulaient coûte que coûte que cela se règle par la force. Et ces pays-là ne veulent pas que l'on négocie directement avec le pouvoir malien qui a été appelé jointe ou je ne sais pas quoi. Ça aussi permettait au Mali de se camper sur sa position. Et donc, comme les trucs étaient comme ça, il fallait véritablement une diplomatie pour pouvoir dénouer la situation. Et je crois que c'est ce que le Togo a su faire en allant demander au président ivoirien Alassane Ouattara de mettre un peu d'eau dans son vin parce que ce sont des militaires qui sont de l'autre côté. Si vous voulez aller par la force, on ne sait pas ce qui peut leur arriver parce qu'ils sont entre les mains d'un État souverain. Il ne faut pas oublier. Donc, même s'il y a une junte au Mali, c'est un État souverain. C'est un pays qui a quand même ses lois qu'il faut respecter. Parce que vous avez envoyé des gens en mission, mais l'État malien n'était pas au courant de leur arrivée. Et donc, cela a permis quand même à Alassane Ouattara, qui a écouté le chef d'État togolais, de tempérer.
Le jeune doyen.
Oui, il appelle le jeune doyen. De tempérer. Et je crois que cela a permis également au président malien, Assimi Goïta, de se dire oui, lorsque vous êtes en conflit et il y a de bonnes offices qui viennent vous voir pour vous dire écoutez, cela ne sert à rien, ça ne va faire que faire durer les tensions entre les deux pays. Assimi Goïta aussi a accepté les propos du président Faure et finalement les deux pays ont eu un gain de cause. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a dit tout de suite quand il a reçu ses 46 derniers militaires, puisque 3 étaient libérés pour raisons humanitaires, nous a-t-on dit.
Notamment et 3 donc, femmes.
Les 3 femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Mali est un pays frère de la Côte d'Ivoire et il va continuer la coopération qu'il y a entre ces deux pays. Ça veut dire que nous sommes à la phase de réconciliation, en quelque sorte, entre ces deux pays. Toutefois, il ne faut pas oublier que le Mali aussi a réclamé beaucoup de choses. Peut-être que ça s'est fait dans les coulisses, nous ne savons pas, nous n'avons pas encore toutes ces informations, puisqu'il y a des réfugiés maliens, des réfugiés politiques maliens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et que le Mali souhaiterait qu'on extrade vers leur pays pour qu'ils soient jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, ce que nous pourrons dire, c'est que en réalité, il y a eu 3 acteurs clés dans ce dénouement-là. Il y a le président Faure qui a véritablement fait une très grande diplomatie, une négociation. Vous avez vu le nombre de fois que son ministre des Affaires étrangères a fait les déplacements vers deux pays. Et Également, Alassane Ouattara qui a accepté cette humilité-là pour tempérer, Assimi Goïta qui a accepté et tout ça.
D'accord. Il y a eu beaucoup de déclarations contradictoires dans cette affaire, des ultimatums, beaucoup d'institutions s'en sont mêlées, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, mais sans succès. Mais finalement, les deux parties se sont parlées par l'entremise du médiateur togolais et sont parvenus à un mécanisme d'entente voilà, qui a permis de décanter la situation. Alors, Ambroisine Emédé, quelles leçons peut-on tirer de cette affaire, aussi bien du côté malien et ivoirien que du côté des acteurs extérieurs, y compris du médiateur? Quelles leçons?
Alors, avant d'en parler, je veux dire que dans cette crise, finalement, on ne saura jamais peut-être la vérité.
Effectivement.
Qui a tort, qui a raison. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Et ces soldats ont été condamnés. Et les soldats, je veux dire, qui n'étaient pas présents à cette...
À l'audience.
Ont été condamnés.
À une peine plus lourde.
Ça montre un peu le côté vraiment percutant de la chose, et le côté, c'est-à-dire, ils ont été reconnus coupables, on les a condamnés. Maintenant, ce que moi j'ai vu dans cette situation, je ne sais pas, ils ont été graciés, c'est bien le thème, les incidences que ça a du côté ivoirien. Mais déjà, entre les deux pays, je sais qu'il y a une volonté de part et d'autre de donner la chance à la paix. Il y a une volonté manifeste dans ce sens-là. Et c'est ça qui a conduit à ce mémorandum-là, même si chacun essaie de son côté de montrer quand même qu'il a raison. Et c'est cette volonté-là que nous saluons. Et c'est ça qui a conduit jusqu'à la libération de ces 49. Le son tiré, comme vous le demandez, c'est que aujourd'hui, la paix est un mot dont on ne peut pas se passer si on veut penser aussi développement. La paix est un mot qui en cache beaucoup. Quand vous n'êtes pas en paix, eh bien, vous passez votre temps à courir après votre sécurité. Si vous n'êtes pas en paix, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire. Et le Togo a, on peut le dire, sa volonté, qu'il est toujours un acteur de paix et qu'il peut toujours continuer à garder cette flamme-là qui existe dans le pays depuis. Je me base sur les situations que le pays a essayé de dénouer la dernière en date. Si on se projette dans le temps avec le président Fepoint Yatema, c'est toujours la crise ivoirienne. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le Togo se positionne comme un facilitateur, un médiateur, tout ce qu'on veut dans le domaine de la paix. Déjà, il faut noter que sans cette volonté d'aller à la paix, le président de la République ne peut rien faire. C'est qu'il y a d'abord, au niveau des deux acteurs, une volonté de paix. Cette crise dont nous parlons, nous ne maîtrisons peut-être pas l'étendue, mais ça peut aller jusqu'au sein des familles. Des deux côtés, est-ce qu'il y a une frontière, une longueur donnée entre les deux pays? Et il y a un brassage entre les deux peuples. Donc, la paix, c'était important pour arriver à cette... libération. Mais il y a un côté qui, chez moi, suscite quand même des interrogations. Et c'est ces soldats qui ont été libérés. Ils ont été libérés, c'est vrai, mais de retour dans leur pays. Un soldat, une dame qui a été condamnée à mort. Il y a ce poids psychologique qui est resté. Je ne sais pas, les juristes peut-être nous diront quelle interprétation donner à ça. Est-ce que quelqu'un qui a été libéré dans ces conditions-là peut se sentir complètement... on ne peut pas parler d'innocence puisqu'ils ont été condamnés. Est-ce que demain, cette personne-là ne pourra pas rebondir et tenter une action à l'endroit de son état? Je ne sais pas si c'est possible. Toujours est-il qu'il reste quand même des personnes qui ont été condamnées pour une... mais on s'en tient à la paix. qui a été sauvegardé de justesse, mais quand même.
Merci beaucoup. Beaucoup d'interrogations dans cette affaire. Alors, au début de cette affaire, Isidore Akolor, certains ne croyaient pas en l'aboutissement de la médiation togolaise, compte tenu de la complexité du dossier. Mais le résultat finit par donner raison aux optimistes. Alors, que peut représenter ce succès pour le Togo et pour le président Faure Gnassingbé?
C'est un lapsus, bon. C'est
journalistique.
Oui,
le journaliste qui est fort.
Voilà. Le grand gagnant, c'est Ambroglio et Ivoiro et Malien. C'est Faure Gnassingbé. Mais c'est Faure Gnassingbé, c'est lui qu'on applaudit à rompre les phalanges, qu'il a réussi là où et la CDAO et l'Union africaine et l'ONU ont joué. Mais bon, je me pose beaucoup de questions. Si c'est compliqué, c'est parce qu'il y a eu des gens qui tiraient sur les ficelles et ils voulaient ravir la vedette à quelqu'un qui était désigné comme médiateur. C'est Faure l'a invité dans ce dossier. C'est le Mali qui l'a invité, qui a dit que bon, c'est pas le. Parce que il y a beaucoup de choses. Quand on avait sanctionné le Mali au niveau de la CDAO, c'est le Togo qui a fait les médiations pour que ça on peut lever. Etc. Donc, Faure Gnassingbé était tellement proche par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, et très proche du Mali, et c'est un interlocuteur valable. Bon. Ouattara a voulu bomber les torses. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que même si l'État, c'est l'histoire d'un président élu, en droit international, il n'y a pas de vide institutionnel. Celui qui occupe le poste, il est président. C'est lui qui a la souveraineté. Mais Ouattara, s'en rend compte. Je l'ai suivi la fois dernière, je me dis que bon, il dit que ben vous êtes des héros, des héros, excusez-moi, pas des héros, des héros, et que vous avez accompli votre mission, vous êtes parti, vous étiez parti pour 6 mois, vous êtes revenu 6 mois, et non, il veut se donner une bonne conscience, et on a le courage de le dire, il veut se donner une bonne conscience.
Il a insisté que ces soldats n'ont rien à se reprocher.
Comment ils n'ont rien à se reprocher? Et mais retournons, nous sommes avant tout des journalistes, on a les informations. Comment des militaires qui se présentent et sans même aviser, hein, le pays d'accueil, et ils débarquent comme ça. Vous voyez des identités, des gens sont des étudiants, des menuisiers, et écoutez, ce sont des mercenaires. Ce sont des messieurs.
Est-ce qu'on peut l'affiner? On ne pourrait pas dire qu'il y a eu quelque chose qui se fait dans ce sens, genre des militaires qui ont l'habitude de passer la frontière vers l'autre côté et dans le cadre de règlements de conflits sans toute autre procédure. Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans cette
Je pose la question. C'est avec l'accord du pays d'accueil.
Voilà, c'est ce que je me dis. Donc, est-ce que d'habitude...
Quand les Maliens avaient demandé à l'état-major, ils voient rien, est-ce que vous avez dit, mais la réponse était non. La MINUSMA avait répondu, mais avant de se rebiffer. Donc, bref.
Il y a un coup quand même.
Oui, la leçon à tirer, c'est que, bon, même si ce ne sont pas des présidents élus ou un gouvernement élu, mais ils assument la sécurité, l'intégrité territoriale du Mali. Il faut le faire. C'est ça. Donc, c'est la leçon à tirer. Le grand gagnant de cet ambiguïo, c'est Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui est applaudi partout, comme le médiateur, vu qu'il puisse aussi faire réagir ça sur le Togo, parce que moi, je me rappelle, enfin, je prends l'exemple de l'anecdote biblique, et la paille et la poutre. Donc, mais si tu n'arrives pas. La paille de l'un feu de l'autre.
Eric, vous aurez la parole tout à l'heure.
Pour la poutre qui est dans votre yeux. On a plein de cas. Il y a Kpachanya Simbe, il y a ses co-accusés, il y a, comment appelle-t-on, Tiger Revolution, les gens qu'on a dit qu'on a surpris avec des amulettes qui veulent déstabiliser le pays. Mais
c'est
l'occasion.
L'occasion de parler.
Élargir ça là.
Éric, vous allez réagir tout à l'heure.
Oui. Voilà, okay. Pour élargir 16 ans, c'est tout ce que moi je souhaite.
D'accord. Éric.
Oui, je disais donc, en allant dans le sens de Isidore, que c'est aussi une occasion de dire, ok, j'essaie de demander pour des Africains, d'autres Africains, je peux le faire chez moi. C'est d'élargir également tout ce qui puisse dans les prisons pour des cas similaires. Et je crois que ce sera toujours à l'actif de son humilité, de sa magnanimité, comme on le dit. Et donc, je crois que effectivement, des gens s'attendent à cela. Et c'est une raison tout à fait bien ordonnée. Il faut que quand vous essayez de montrer une certaine face à l'international, il faut que cela réjaillisse également sur vos compatriotes ici. Ce n'est qu'une demande. Nous ne pouvons pas connaître tous les méandres de tout ce qui se passe avec ces gens-là. Mais très humblement, nous demandons aussi qu'un geste soit fait envers ces compatriotes-là.
D'accord. Ils sont à l'écoute, ils ont certainement écouté votre message. Alors, nous allons revenir à un article du journal Actu Express. Alors, recherché pour pédophilie, pasteur Georges Asiaka de l'église Grande Mission de Zopomahé en cavale, laissant fidèles et familles sans nouvelles. Isidore Akolor.
C'est rocambolesque. On avait eu vent de cette affaire. Et on était allé sur le terrain. Bon, il s'agit d'une fille, hein, d'une orpheline de 14 ans qui faisait la classe de 4e, qui rêvait de devenir, à défaut de médecin, une infirmière pour soigner les gens. Donc, suite à la mort de son papa, il était démuni. Donc, elle s'est réfugiée auprès de ce pasteur et qui a abusé d'elle. Finalement, elle n'était pas seule aussi dans le cas. Et il y a d'autres filles, dont une apprentie couturière, dont nous taisons. On a tous les noms, hein. Mais pour préserver leur intégrité, on n'a pas donné les noms. Et une aussi qui a brillamment réussi au bac 2 et devait faire l'université cette année. Donc voilà, c'est ce pasteur-là qui a cette réputation d'être débonnaire dans le quartier, qui abuse de sa fille. Donc, quand on avait eu l'information, on s'est transporté sur les lieux. Et c'était le 16, dans la nuit du 16, que le pasteur, quand on lui a envoyé la convocation, a pris la poudre d'escampette et dit que, bon, il est allé, il s'est refusé, enfin, comment dirais-je, à la retraite spirituelle et Todi, et au Ghana, pour 40 jours. Mais si vous faites les décomptes de
Saint-Jésus,
depuis le 16 décembre.
Depuis le 16 décembre, et il est porté disparu, mais sans donner aucune nouvelle à ses fidèles, ni à sa famille. Donc j'ai rencontré sa femme, qui a dit que bon, il va revenir, et c'est la femme qui a répondu à la convocation, disant que bon, son mari va revenir et patati patata. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer l'un de ses dignitaires qui se trouve être le grand frère de sa femme, on l'appelle Niné. Donc c'est un dignitaire qui dit que non, il est allé pour 40 jours. Mais les 40 jours, quand vous faites les décomptes, le 26 décembre, le pasteur devait revenir. Et la question que nous nous posons, quel est ce pasteur qui est allé à la retraite spirituelle et n'est pas venu durant la fin de l'année célébrer les messes de fin d'année, surtout la nativité et l'épiphanie, pour faire jaillir, hein, cette divinité ou cette bonté, comment je ne sais pas trouver.
Il l'a reçu sur la montagne. Sur la
montagne pour être reçu. Et il est porté disparu jusqu'à hier, quand nous bouclons l'appelle, rien.
Non, mais ce qui est évident, c'est quelqu'un qui est accusé de pédophilie. De pédophilie. Vous voulez le voir quand? Mais il est parti à jamais, parce que là, il sera jugé pour ses actes si aujourd'hui il est encore présumé coupable.
Hein? Il est présumé coupable.
Il est présumé coupable, mais il faut qu'il revienne pour répondre de ses actes. S'il est coupable, il ne va plus revenir, tout simplement. Mais, vous savez, cette histoire-là se passe désormais un peu partout. Dans les églises charismatiques que nous voyons dans le
pays. Moi, je les appelle les églisettes.
Oui, à tout le monde.
Et donc,
allez-y.
Je crois que il faut reprendre la moralisation de ces églises-là. Il faut que cela se fasse dans un cadre réglementaire. Et on ne comprend pas. Vous regardez un peu sur la toile, mais c'est des pasteurs qui font des scènes ignobles. Hier, j'ai vu un truc, mais la dame était pratiquement nue dans l'église, devant les fidèles, sur le pasteur. Je dis, mais on va où avec tout ça? Et d'autres sont en train d'enlever leur pelle qu'elles ont mis à la taille, en train d'enlever ça de leur robe et tout ça. Quand vous regardez ça, vous vous demandez si réellement c'est encore des églises. Alors, je crois que ce monsieur-là, il n'est pas le seul. D'autres sont bien là. Et c'est parce que lui, on a découvert qu'il est recherché. Mais maintenant, les autres... Qu'est-ce qu'on va en faire?
D'accord. Merci. Oui, maman voisine.
Oui,
quelques secondes.
Je voudrais vraiment appeler nos sœurs à être prudentes. À être vraiment prudentes face à certains pasteurs qui, en réalité, ne sont que des vendeurs d'illusions. Il y en a qui vont vous dire venez à une prière et vous y allez à des heures indues. Quoi qu'en soit le problème que vous avez, il faut être vraiment prudent face à ces pasteurs-là. Et j'ai connu une dame qui a failli subir quelque chose de très grave. N'eût été la vigilance de sa sœur, elle ne serait plus dans son foyer aujourd'hui. Et je me souviens encore de certains pasteurs qui a fui. Et église pardonnée 77 fois. Voyez-vous?
Je
voudrais que nos soeurs, parce que dans les églises, je le dis, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises. Je me dis que elles vont à la recherche de quelque chose. Mais Dieu est dans votre cœur et dans votre maison. Et j'appelle encore à la mobilisation, à la moralisation, comme Eric l'a dit tantôt, de la vie publique, sur certaines choses, sur vraiment certaines choses qui concourent au bien-être du foyer. S'il y a la paix au foyer, s'il y a la paix à la maison, je ne crois pas qu'une femme irait vraiment jusqu'à se mettre nue devant un pasteur.
D'accord, merci à vous. Nous avons empiété un peu sur la pause commerciale. Thomas, on fait une pause et on revient.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Le moment est aux appels. Nous allons ouvrir l'antenne aux éditeurs. 22 21 33 74 22 21 33 74 91 36 63 75 98 87 78 37. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ça va, monsieur?
Bertrand.
Monsieur Bertrand, on vous écoute.
Oui, il s'est pas rapport à cette affaire de 46, 49 soldats. Là. Moi, depuis là, il y a une question à laquelle personne n'a pas encore répondu. Monsieur Isidore vient encore de le dire, qu'on a retrouvé sur les passeports de ces militaires comme métier cuisinier, menuisier, etc. C'est ce côté vraiment que moi je veux qu'on m'explique. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que les Ivoiriens, monsieur Alassane Ouattara, disent par rapport à ça? C'est des militaires ou bien c'est des cuisiniers ou des menuisiers? Merci.
D'accord. Merci à vous. Allô? 22 21 33 74. Allô?
Oui, bonjour chef.
Bonjour.
Oui, c'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui, pour ce pasteur, on doit lancer un mandat d'arrêt contre lui. Ce pasteur, on doit le rechercher et le retrouver. Et pour le Mali, ces chefs d'État ne se sont pas dit la vérité. Même entre eux, ils ne se sont pas dit la vérité. Pour cette histoire de 49 mercenaires. C'est pour...
D'accord. Allô?
Allô?
Allô, oui, bonjour.
Allô?
Allô? On vous écoute. Bonjour.
C'est moi qui je suis toujours en ligne.
Ah, d'accord. Ok, allez-y.
Oui. C'est pourquoi Maïga leur avait dit la vérité que le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables. Il faut pas aller avec la force parce que ces messieurs sont des mercenaires, tout simplement.
D'accord. Merci à vous. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75, 98, 87, 78, 37. La ligne est toujours ouverte à ceux qui veulent réagir. Allô?
Oui, allô.
On vous écoute?
Bonjour, c'est Yamavo.
C'est monsieur?
Yamavo.
Ok, on vous écoute.
Oui, merci au président qui s'est entendu, puisque ça se faisait savoir. Et comme on a, dans les médiations, on a commencé par voir comment ça marchait, il faut presser le jugement et les libérer. C'est ce qui est fait par Assimi Goïta. Ça veut dire qu'au moins, ces injonctions ou bien la médiation a passé par là. Si on voit un chef d'État se déplacer à la dernière minute, ça répond, disons-nous que le repas est prêt, c'était pour aller mettre la main à la pâte. Maintenant, il reste une forte médiation. On veut quelqu'un qui va aller voir les djihadistes et arrêter la guerre là. Vous savez, depuis la Libye, on voyait la Libye comme un État très fort, une puissance en Afrique. Si on a pu nous arracher Kadhafi, dites-nous aujourd'hui, avec flou kafkaïen qui est en Libye, on ne sait pas qui est le chef de l'État. Si il doit avoir des djihadistes, on dit que c'est des individus lourdement armés. Ça doit commencer par les pays côtiers. Pourquoi c'est dans les Sahel? Donc on a cherché un passage par la Libye. Hein? Nous allons trouver un médiateur pour aller discuter avec l'OTAN et la France. Pour pouvoir fermer notre frontière au niveau de la Libye. Hein? Sinon, ou bien les autres sont complaisants en faisant passer les armes aussi, on ne sait pas. Sinon, si on laisse la Libye toujours poreuse, nous n'allons pas finir avec les djihadistes. Donc, si on peut trouver un médiateur pour aller discuter avec l'OTAN, qui est responsable, et la France, pour nous fermer les frontières au niveau de la Libye, vraiment, on va finir avec les djihadistes. C'est à cause des djihadistes qu'on a pris les Ivoiriens. Sans les djihadistes, on n'aurait pas pris les Ivoiriens. Je vous remercie.
D'accord, merci à vous. La ligne est toujours ouverte. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour,
c'est monsieur.
Armand. Bonjour, le plateau.
Bonjour. C'est monsieur?
C'est Armand.
Monsieur Armand, on vous écoute.
Oui. Il faut dire que je vais commencer d'abord par nos pasteurs. Il va falloir que les choses soient bien claires. Parce que ces pasteurs que je qualifierais de véreux et de pernicieux passent par le fait que la notion de pasteur aujourd'hui, bon, on sait très bien que chez les catholiques, quand on a affaire à un prêtre, on peut identifier immédiatement vers le Vatican. Mais les pasteurs aujourd'hui, bon, certains se mettent dans des ministères qu'on ne sait même pas, on ne sait pas qui est le répondant. Et c'est tout cela qui amène les uns et les autres à faire ce qu'ils veulent. c'est l'impunité aussi. Parce que on a vu sur les réseaux sociaux des comportements complètement déplacés des pasteurs, mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? Rien du tout. Donc, il va falloir que les autorités, je ne sais pas si c'est les autorités qui vont faire ce travail d'assainissement de ce secteur, ou bien comment cela va se faire. Concernant le Mali, j'aimerais dire que, avec cette libération des soldats ivoiriens, à bien voir, c'est le Mali qui sort un peu gagnant. C'est vrai que la médiation avec le chef de l'État prend une grande partie, mais les Maliens aussi réaffirment leur souveraineté sur leur pays. Ils ont jugé, ils ont d'abord, contre vents et marées, pu juger et condamner ces soldats avant de les libérer. Donc, il va falloir que la solidarité africaine soit plus visible concernant le Mali, parce que c'est par là que nous allons vraiment reprendre les rênes de notre souveraineté. Merci.
D'accord. Merci, M. Armand. Allô? Pas encore d'auditeur en ligne. 22 21 33 74 91 36 63 75 Move 98 87 78 37. Allô? Allô? Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est ici.
Madame Essi, on vous écoute.
Oui. Et je ne comprends pas pourquoi on se compète à nous perdre du temps dans ce pays. Cette histoire de tractation sur une déstabilisation d'un pays, tout ça là, est-ce que c'est la première fois que ça se passe au Togo? Depuis 63 là, il n'y a que ça, non? Ce régime vit que pour l'international. Mais attends, parlez-nous d'autre chose, quoi. Hein? Est-ce que c'est une bonne chose de crier tout le temps qu'il y a eu des stabilisations quelque part, le Togo? Vous devez avoir honte, plutôt, hein, dans ce pays. Parlez-nous du développement. On est dans la précarité, on ne fait jamais de compte. On gère la République comme une épicerie. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. L'histoire de Noachet, tout ça, là, c'est de l'amusement. On n'a rien à foutre. Merci.
Merci à vous. Bonne journée. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur?
Monsieur Corsivi.
Monsieur Corsivi, on vous écoute.
Oui, je veux pas. Moi, je veux parler de la culture là. Allô?
Allô, on vous écoute.
Oui, je veux parler de la culture là.
Allez-y.
Bon, on dit que la culture, ça fait quoi dans le pays? Pourquoi là? Bon, c'est parce que le pays ne va pas bien. Si le pays allait bien là, moi, je veux aller chercher de l'argent, aller suivre ça là parce que. Aller dans le sur la, le cinéma, au moment que le pays est là, sans rien ne marche, le pouvoir d'achat au voyage, tout récemment, comme le pouvoir d'achat. Tout ça là, il faut faire du bien. Quand on fait du bien, c'est vite fait. C'est vite fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Hussein.
Oui, bonjour. C'est monsieur?
C'est monsieur Abdoul.
Monsieur Abil.
Abdoul.
Ok, on vous écoute.
La remarque que j'ai faite, au moins un président de religion musulmane a libéré les 46 mercenaires. Au moins un chrétien aussi, président, n'a qu'à libérer aussi les détenus politiques dans son pays, pour que ça soit 1-0-1-0. Parce que Assimi Gota, c'est un musulman.
Est-ce que c'est une question de religion?
C'est une question de religion. Assimi Gota, il a lu le Coran. Et il a accepté ce que le Coran lui a dit. Il a libéré les 46 mercenaires. Vous aussi, lisez la Bible aussi et libérez les aussi dans votre pays.
D'accord.
Comme ça serait 1-0-1-0.
Ok. Merci beaucoup. Allô?
Allô, oui.
Oui, bonjour. Comment bonjour.
Oui, je salue vos invités.
C'est monsieur?
C'est Mathieu.
Ok, Mathieu, allez-y.
Oui. Vous voyez, quand on a le soutien de son peuple, on arrive à asseoir sa politique. Si le Mali a pu faire face à la FEDEAO, c'est parce qu'il a le soutien de son peuple. Que le chef d'État fasse tout pour ne pas avoir le soutien de l'extérieur, de l'opinion internationale, mais plutôt de leur peuple, de leur concitoyens. Le président ivoirien, il a appris à faire des dépenses. S'il a pensé que la France pouvait tout faire, il fait la politique de la France, aujourd'hui, la France n'a pas pu intervenir pour libérer les 46 soldats ou cuisiniers, je ne sais pas. C'est pour montrer que à un moment donné, quand on fait confiance aux impérialistes, à la fin, on est souvent déçu. Donc, c'est une mise en garde qu'ils prennent en même temps conseil, qu'ils tirent des leçons de ce qui peut lui arriver demain. Merci.
D'accord, merci, M. Mathieu. Allô? 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 Il est parti. 22-21-33-74-91-36-63-75. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Allô, c'est Nyamavo qui revient.
Ah, ok. On vous écoute.
Oui, c'est pour ajouter que si un chef d'État veut se désolidariser du néo-impérialisme, il va payer à ses dépens. Si vous voulez citer le cas de Tchad, qui était allé au front pour battre les djihadistes et ramener les armes sur lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, pour alléger la situation, il faut placer quelqu'un. Et même le président français allait pour le mandater qu'on reste là-bas, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ça dit que nous ne pouvons pas. Nous sommes dans un néo-impérialisme qui ne dit pas son nom. Il faut terroriser les gens, quitter leur territoire pour avoir l'espace facile pour les minerais, quoi. C'est ce qu'Assimi Gota dénonce, qu'il y a des zones qu'on a décrétées zones rouges où eux-mêmes militaires formés ne peuvent pas mettre pied, que c'est les Français seulement qui peuvent se défendre là-bas. Vous voyez, ça c'est clair, les formules là-même, c'est scientifiquement c'est compréhensible. Je vous remercie.
Merci beaucoup. À très bientôt. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, ma directeur.
Ah, monsieur Papa Sibiti. Oui, on vous écoute.
Vous voyez, je vous remercie que mon directeur fils et ça se revienne à que Dieu le protège.
Amen.
Vous voyez, ce qu'il y a, c'est depuis le président Yadema que la négociation togolaise se fait jour. Bon, maintenant, c'est le président fort. Que la CEDEAO dont on parle, pourquoi elle ne peut pas faire face aux djihadistes? Les Européens, la France, si c'est, où est-ce que les djihadistes trouvent l'argent? Hein? Pour terminer, les pasteurs, là, voyez, vous avez toujours dit, les journalistes, nous vous suivons, on vous félicite. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Cette femme-là qui s'en va te mettre nu devant un pasteur. Le pasteur est-ce que c'est un Dieu? Hein? Même si c'est un Dieu, il allait faire ça. Voyez les pasteurs. On dit les prêtres. Bon, je ne sais pas si les musulmans chez nous, il y a ça. Mais le ministère de l'habitation territoriale, le ministre de la sécurité, où est-ce qu'ils sont? Et ça se passe dans notre pays et sur nos enfants. Il faut qu'on les voit. Combien j'ai menti, mes directeurs et mes enfants. Voyez cette affaire-là. Ne baissez pas les voix. Continuez la lutte pour que les femmes-là, elles n'ont rien à manger, mais elles vont donner aux pasteurs. Merci beaucoup.
Merci à vous, Papa Sibiti. Allô? Allô? Ah, je crois qu'il est parti. C'est donc le dernier intervenant. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. S'il y a quelques réactions, on passe aux réactions avant les cartons. Isidore?
Non, pas de réaction.
Le micro, voilà. Allez-y.
Non, pas de réaction en tant que telle. Bon, je constate que nos auditeurs nous ont suivis religieusement et ont abondé dans nos sens. Et c'est le lieu, bon, pour, quoi dire, interpeller et la direction des cultes. Surtout parce que c'est ça qui a plus ému les auditeurs, l'action de notre pasteur, dont je tais le nom, ou si vous voulez, je peux le dire.
Non, c'est mieux de garder son nom dans l'anonymat.
D'accord, dans l'anonymat, ouais. Mais les gens vont le découvrir quand même, c'est déjà publié. Et que ça ne se répète plus. Mais nous n'allons pas lâcher prise, on va le suivre, puisqu'il est allé à la retraite spirituelle tôt ou tard, j'espère qu'il va revenir, et pour répondre de ses actes.
D'accord. Alors, puisque vous avez le micro,
votre carton?
Le carton, c'est toujours, je vais encore réitérer, hein, et je l'ai dit, chaque fois quand je viens ici, nos feux tricolores, nos feux tricolores, c'est à qui on doit s'adresser pour qu'on puisse les remettre à flot. Ce n'est pas normal que dans une capitale, 2 feux tricolores sur 10 fonctionnent. Vous prenez l'artère et Grand Marché, comment appelle-t-on, à Tikoumé, mais vous allez compter les tricolores qui fonctionnent du bout des doigts. Vous prenez le littoral, c'est la même chose. Mais c'est bizarre. Donc, carton, une fois encore, oui. carton rouge carton maintenant rouge. À toutes nos autorités et qui sont impliquées dans la gestion de ces feux tricolores.
D'accord. Éric Gionson.
Oui, j'ai suivi un peu les auditeurs également. Je crois que l'atteinte à la pudeur, ça a choqué tout le monde. Et je crois que c'est ensemble que nous devons mener ce combat-là. Et il y a un ministère des cultes qui doit s'occuper de cela. Et pourquoi pas organiser souvent des formations ou des séminaires pour ces pasteurs-là et essayer de leur dire comment ils peuvent aider la nation à aller de l'avant. Parce que là, quand on prend tous ces individus-là qui sont victimes des actes de ces pasteurs véreux-là, c'est des gens qu'on a peut-être hypnotisés ou je sais pas, puisque du moment où il y a eu une étude psychologique que ces pasteurs-là font sur ces gens-là pour dire on peut les avoir de telle manière et ils vont à l'acte. Et en ce qui concerne c'est surtout Madame Essi que j'apprécie beaucoup dans ses réflexions, je pense que s'il y a la diplomatie, s'il y a la coopération, c'est que à certains moments, il faut aussi jouer sur ça, capitaliser et pouvoir apporter quelque chose au pays. C'est pas toujours négatif. Hein, il faut dire que ces négociations-là aussi permettent quand même de voir un peu notre pays, de mettre un peu notre pays sous les feux de rampe sur le plan international.
D'accord.
Alors, je vais donner un carton vert à l'université de Lomé qui essaie d'innover toujours. Je crois que c'est devenu pratiquement un rituel, au moins chaque trimestre, il y a une innovation qui vient. Et là, on est en train d'aller vers une faculté des sciences et techniques. Et donc, il y a eu une cérémonie la semaine dernière qui s'est passée. Et je crois que nous allons quand même vers une université qui répond à ce que les industries, les firmes demandent aujourd'hui comme main d'œuvre qualitative pour pouvoir avancer.
D'accord. Donc, carton vert.
Carton vert voilà. À l'université de Lomé.
D'accord. Ambroisine Mémédé.
Alors, je vais...
Allez-y.
Ok. Alors, je voudrais dire que avec cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on sait désormais que les Africains ou nos États peuvent gérer leurs différends sans intervention étrangère, ce qui est une bonne chose. C'est ce que je veux dire sur ce point-là. Et je veux revenir sur le volet sécurité sur nos routes. Le constat que j'ai fait, c'est que quand le feu est à l'orange, c'est en ce moment que les gens filent. C'est ça que je n'ai pas pu comprendre et je voudrais demander aux usagers de la route de rouler avec beaucoup de prudence parce que quand ça pète, les premiers à ressentir, c'est eux d'abord. Les engins, la façon dont vous appuyez, ils répondent de cette façon. Mais quand vous faites l'erreur de tomber simplement, vous savez qu'en réalité, c'est à vous-même que vous faites du mal.
D'accord.
Alors, je vais donner carton vert à tous les journalistes professionnels de l'information. Que le Seigneur nous accorde santé, divine protection. Parce que l'année qui vient de s'écouler, on a beaucoup subi.
Amen.
Que le Seigneur nous accorde vraiment santé.
Amen.
Et divine protection.
Amen. Alors, Ambroise Memédé de l'agence de presse. Ambroisine, voilà. Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savard News. Eric Johnson du journal L'Union. Et puis Isidore Akolor du journal Actu Express. Merci d'avoir accepté notre invitation. La technique a été assurée par Thomas Datevi, mise en ligne Jéro Akucha. Je suis Fousseni Saïbou. Je vous retrouve jeudi. À très bientôt.
Merci.
Joyeux.
Canal FM. J'adore.
Pastor Bubu, tell me your woo. Pastor Bubu, tell me your woo.